Bonjour chers auditeurs, je souhaite la bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition du Libre Journal de Pascal Assale sur Radio Courtoisie naturellement. Alors je tiens tout d'abord à préciser que cette émission est préenregistrée. Elle est préenregistrée mi-juin pour une diffusion donc ce samedi 11 juillet. Donc je ne vais pas préjuger des événements internationaux en particulier qui pourraient avoir lieu d'ici là, étant donné que je vais aborder aujourd'hui avec mon invité, un habitué, vous allez le voir tout de suite, de ces studios, donc des questions géopolitiques liées à l'actualité internationale. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir à nouveau, donc comme je viens de le dire, un habitué en la personne de Gabriele Adinolfi. Gabriele, bonjour.
Bonjour.
Bon, je vais quand même un petit peu rappeler qui tu es, hein, pour des auditeurs, quelques rares auditeurs qui ne connaîtraient pas. Donc tu es militant et activiste nationaliste révolutionnaire italien, donc historique si je puis dire. Tu as cofondé l'organisation nationaliste révolutionnaire Terza Posizione, donc dans les années 70, et ensuite, après une vingtaine d'années d'exil consécutive à de fausses accusations lancées contre toi et plusieurs camarades, tu es revenu en Italie avec toujours ce lien particulier que tu as avec notre pays, hein, énormément de personnes que tu as pu fréquenter et qui ont contribué à nourrir ta vision du monde. Et tu as été fondateur tu as fondé plusieurs initiatives métapolitiques, en particulier le centre d'études Polaris, le site nosrepertoires.org et surtout, depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, donc la confrérie pan-européenne Lansquenet d'Europe, qui tiendra, mais je le rappellerai tout à l'heure, donc ses 11e rencontre estivale en Provence, donc entre le 23 et le 26 juillet 2026. On pourra en reparler tout à l'heure, tu nous présenteras ça en fin d'émission. Mais surtout, bon, tu viens de publier donc un nouvel ouvrage. Hein. Rappelons d'ailleurs, je peux rappeler pour l'auditeur que nous connaissons depuis pratiquement un quart de siècle et j'avais modestement contribué à la traduction et l'adaptation de tes premiers livres, hein, parus en France, avec notamment donc Nos belles années de plomb en 2004. Et tu viens donc de récidiver pour notre plus grand bonheur, nous allons le voir, avec un ouvrage intitulé « La révolution silencieuse ». Qui a été publié par l'ami niçois Benoît aux éditions du Paillon, hein, donc disponible pour la modique somme de 20 euros. J'aurais tendance à présenter cet ouvrage comme un petit peu un florilège des prises de position depuis maintenant pratiquement une vingtaine d'années, voire plus. Je le présenterai un petit peu comme un résumé de tes orientations existentielles et idéologiques. À savoir que bon, tu as abordé dans de plusieurs chapitres, tu vas aborder plusieurs points, hein, qui ont trait à la fois à l'éthique militante et surtout une maxime qui t'est chère, hein, notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Donc des aspects existentiels qui rappellent en fin de compte l'approche qu'avait pu avoir le meilleur Julius Evola dans ce qui doit constituer une voie personnelle qui implique un travail sur soi dans une voie qu'il avait qualifiée de solaire, guerrière et olympienne. Et d'autre part, bien sûr, tu donnes ton point de vue, tu rappelles ton point de vue de manière synthétique sur plusieurs questions, bien sûr, qui agitent nos sociétés. Et les fins de cycle que nous vivons, que ce soit des questions concernant la politique intérieure de nos différents pays, le tien bien entendu, mais le nôtre et le reste du continent européen, et des prises de position qui pourront, on va le voir, bon, aux oreilles de nombreux auditeurs de Radio Courtoisie, se révéler un petit peu dissonantes, mais qui rentrent, bon, en tout cas en coïncidence avec celles qui sont les miennes. Hein. Les auditeurs fidèles connaissent mes prises de position alter-européennes, impériales, liées donc à ma maison mère que fut la nouvelle droite historique. Tu reviens également sur plusieurs questions géopolitiques, en particulier les plus clivantes du moment, où là aussi, nous allons le voir, bon, tu fais part d'un point de vue alternatif, d'un point de vue que je qualifierais de tercériste. Hein. Ça fait déjà plusieurs années que je dis que la troisième voie est plus que jamais d'actualité. Hein, c'est le troisième bloc qui avait agité en quelque sorte les mouvances néo-droitistes et nationalistes révolutionnaires des années 80. Elle reste plus que jamais d'actualité à un moment, à une époque où parfois les points de vue ont tendance à devenir binaires, manichéens, voire hystériques. Et donc c'est des choses sur lesquelles nous sommes revenus. Alors, pour revenir au premier point, et ensuite, oui, je crois que nous terminerons en dernière partie d'émission sur ton point de vue sur certains éléments, certains événements qui ont secoué notre actualité, que ce soit en Italie, que ce soit dans notre pays, ou bien sûr sur la scène géopolitique, hein, bon, tout en, bien sûr, hein, ne tombons pas dans des spéculations et éventuellement dans des changements qui auraient pu intervenir entre l'enregistrement de cette émission et sa diffusion. Alors, je reviens un petit peu au premier point que j'ai exposé, c'est-à-dire ce qui caractérise souvent tes prises de position et tes ouvrages, Gabriele, c'est l'accent qui est mis justement sur l'éthique personnelle, sur le travail personnel, sur la révolution intérieure que le militant désireux de constituer une avant-garde nécessaire doit effectuer sur lui-même et par là même dans les différentes structures que l'on voit aujourd'hui agir. Ou s'agiter, là je reprends un petit vocabulaire évolien, donc sur la scène politique et métapolitique. Peux-tu essayer de revenir sur ce point-là, un petit peu l'expliquer synthétiquement pour nos plus jeunes auditeurs en particulier ?
Oui, disons que j'ai vu deux choses se vérifier dans les dernières décennies. D'un côté, il y a eu des évolutions négatives et positives à la fois à niveau social, qui ont ramené des situations qu'on peut appeler, d'après moi, au moins intéressantes, et de point de vue politique et de point de vue anthropologique. De l'autre côté, ce qui avait été la droite radicale de l'époque a vécu une fossilisation. Donc les gens sont devenus fossilisés. Alors, normalement, la révolution, peu importe laquelle, bon, la révolution, disons, qui a une éthique, qui a des points de principe, elle reste fidèle à ses principes, mais elle est très souple par rapport aux évolutions. Ce qui est arrivé dans l'ancienne droite radicale, c'est l'inverse. C'est-à-dire, les principes se sont perdus, presque, ou sont oubliés, ou sont dépassés en deuxième
position, quoi.
Et par contre, ce qui est aléatoire, ce qui est immédiat, ce qui est discutable, ce qui est pure conviction, sont devenus de vrais dogmes qui empêchent de bouger. Alors, c'est arrivé que nous avons vécu une période, et nous vivons une période très intéressante, dans laquelle il y a beaucoup de choses qui se passent et qui peuvent avoir de grands résultats, y compris à niveau électoral, mais l'électoral n'a pas d'importance s'il n'y a pas derrière et avant, et surtout après, des structures et de pouvoir réels qui se sont créés dans la société. Mais bon, il y a cette tendance qui est très intéressante, mais il y a un décalage énorme entre ceux qui voudraient le chevaucher et la situation en soi. Ce qui fait que normalement, tout ça vient toujours, est toujours récupéré par de centrales qui n'ont rien à voir avec nous. Alors, il y a une chose que j'ai pu vérifier de ma vie, de mon expérience dans les dernières 4-5 ans. Et je l'ai vérifié un peu partout. Il y a plein de gens qui ont au-dessous de 30 ans, parfois au-dessous de 20 ans. J'ai eu même des gens de 13 ans qui sont venus quand je présentais le livre, et beaucoup de 16 et 17, qui se sont...
Là, tu parles en Italie, principalement.
Je parle en Italie, mais principalement, ça vaut... Oui. C'est assez... C'est un peu dans tous les pays.
Oui.
Et eux, qu'est-ce qu'ils sont ? Ils ont ils sont plus disciplinés, plus modestes, plus humbles, mais aussi plus réalistes. Et ils étudient beaucoup plus que les plus aînés.
Ils étudient, ouais.
Donc, je leur dis toujours que l'Internet qui nous a divisés par génération leur a donné la chance de ne pas être déformés par nous. Et donc, c'est comme ça que je pense qu'il y a un retour possible aux sources des énergies qui peuvent faire créer des alchimies réellement. parce que tout le reste, est, malheureusement, pendant un certain temps, ce sont des fossiles ou des moules qui se trouvent sur des roches et qui, en plus, qui sont toujours dans l'attente d'un messie. Qui peut être peu importe qui peut être Salvini, Poutine, Trump, peu importe
oui,
qui.
Une sorte d'homme providentiel,
oui,
qu'il soit autochtone ou qu'il soit étranger.
Et la seule chose qui mène ceci, comme résultat, c'est la rancune et c'est l'impossibilité de dialoguer avec une réalité qui devient fantasmée avec toujours un rêve à l'américain dans 7e cavalerie qui viendra, qui d'après eux n'est pas américaine. Mais en fait, ils vont regarder tous les gens pour lesquels ils tiennent, sont tous bien liés aux États-Unis. Mais ça, c'est encore un autre sujet.
En tout cas, on peut le constater sur les réseaux sociaux. Hein. On a une sorte de pétrification. On sent du ressentiment, et on sent une crispation de beaucoup de nos contemporains, beaucoup de nos compatriotes dans leur manière de prendre position. Et c'est souvent des déclarations qui sont péremptoires, qui sont tranchées, qui ne reposent pas souvent sur une connaissance profonde des sujets sur lesquels ils s'expriment. Et ça, tu as pu, comme moi, comme beaucoup d'entre nous, constater cette dérive. Nous qui avons quand même un petit peu de recul, surtout toi beaucoup plus que moi naturellement, mais dans la fréquentation, dans la formation de militants, on voit qu'aujourd'hui, et puis il y a aussi une sorte de passion triste, quelque part. Qui implique du ressentiment, qui implique des réactions de repli qui sont à l'opposé totalement du type humain que nous souhaitons régénérer, auquel nous nous rattachons à travers nos mythes, nos symboles et nos exemples historiques.
Tu vois, le fait de ne pas connaître les sujets ou ne pas connaître bien l'histoire ou ne pas connaître, c'est relativement important. C'est-à-dire, c'est très important quand quelqu'un mène le bateau. C'est beaucoup moins important pour les marins. Je veux dire, si tu penses aux squadristes des années 20, ils ne savaient même pas où ils allaient, mais ils savaient qu'ils allaient dans le bon sens. Mais si tu avais demandé à chacun, il aurait dit une chose différente. Ce n'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est un autre. Alors que d'abord, que ceux qui dirigent ou qui prétendent diriger ou qui sont appelés diriger ne sont pas des dirigeants, très souvent, parce qu'ils n'ont pas fait le travail complet sur soi.
Voilà, ce travail préalable.
Préalable. Ouais, mais surtout, il y a un problème qui est autre chose. Là, j'en parle aussi dans le livre en faisant une citation de Nietzsche sur le bonheur, sur le bonheur non voulu. Le vrai problème, c'est que toute cette haine, cette hargne, cette attente que tout tombe, etc., vient du malheur. Ce sont des gens qui sont malheureux, ils ne sont pas heureux. S'ils sont heureux, ils sourient de tout, de toutes les comédies et toutes les tragédies, qu'on peut dire. Et comme c'est ça, la grandeur de bonnes révolutions, à partir même de Napoléon, sont toutes faites avec un joyeux sourire, avec un ménéfrego.
Oui, quelque sorte, la lutte, le combat par la joie, en fait.
Oui. et c'est ça qui manque, mais c'est ça que je vais voir. Enfin, c'est plus compliqué parce que effectivement cette jeunesse vit dans une logique culturelle très particulière, donc c'est plus compliqué pour eux, mais je vais revenir ça beaucoup dans les très, très jeunes, et ça c'est très bon parce que ça faisait au moins 4 décennies que je ne voyais pas ça parmi les jeunes, les tout jeunes.
Voilà, en plus, c'est une génération qui est née déjà dans une société qui était bien atteinte par des processus dégénératifs et de décadence. Beaucoup plus avancé qu'à nos époques respectives également. Donc ça crée aussi une volonté et des espoirs qui relèvent en fin de compte de réflexes vitaux, qu'on y réfléchit beaucoup plus que nous. Nous, on a pu avoir des périodes où on pouvait se permettre certains débats, certaines discussions interminables, etc., sur le sexe des anges, un peu comme à Byzance, assiégé par les Ottomans. Enfin, on prend toujours souvent cette image, mais effectivement, chez eux, il y a une urgence, mais un certain optimisme, mais en tout cas, ou alors un optimisme de l'action et des perspectives qui veulent se tracer. Beaucoup plus que beaucoup de représentants de générations précédentes qui se sont un peu encroutés, qui se sont ossifiés, stérilisés, fossilisés, comme tu le dis. Et donc, tu as avancé souvent ce concept de droite terminale. Bon, je pense que tu traitais avant tout du contexte politique italien, mais que tu peux, je pense, étendre à certains pays. Comment pourrais-tu le définir, enfin, pour nos auditeurs,
Je le considère terminal. Dans le mot médical du terminal, c'est quelque chose qui est déjà mort, mais qui attend qui a une décomposition en attente de disparaître. Donc, alors, je ne vais pas dire que tous les gens du milieu soient comme ça, non. Mais je veux dire que il y a tout ce qui est sur lequel il y a une mainmise d'une idéologie dogmatique négative, antagoniste dans le sens bête du terme, et qui part du fait que de toute façon tout est un complot, et en plus, qui ne voit jamais le complot où ils y sont. Parce que c'est extraordinaire. Tous les complotistes parlent d'un complot parce qu'ils ont une image du complot complètement déformée et ils tombent toujours dans tous les complots qui sont absolument clairs mais qu'ils voient pas parce qu'ils ne comprennent pas la vie. Donc, ne comprenant pas la vie, ils ne comprennent rien de ce qui se passe. Mais donc, tout ça est en train de, grosso modo, de mourir. Mais entre-temps, il y a quelque chose qui est en train de renaître. Je vois, par exemple, je parle surtout de l'Italie, mais je parle aussi de l'Espagne, par exemple.
Oui, d'ailleurs, je précise que ton livre il est traduit en espagnol également.
Ouais,
hein,
voilà, oui, je parle de la Pologne. Je vois quand même qu'il y a de nouvelles générations qui ont le bon esprit. Et qui n'en ont marre de tout ce qu'ils disent parce que tout est foutu, il n'y a plus rien à faire. Le coupable est Soros ou Rothschild ou Loton ou peu importe lequel, comme si c'était si simple que ça. Et donc, d'un coup, à l'improviste, il arrive, je ne sais plus qui, les ordres de Gog et Magog pour nous libérer et pour nous permettre je ne sais plus quoi. Ou alors qu'ils s'attendent à l'improviste que tous les blancs de la planète se mettent à côté. Pour travailler sur je ne sais plus quoi, en oubliant par exemple que les bombes atomiques, que les bombes sur Dresde, bon, c'est de blancs quand même. Donc il n'y a pas cette alliance entre tous les blancs, donc il ne comprend pas la différence entre civilisation et race, alors que ce n'est pas important. Je veux dire, ce n'est pas qu'il ne faut pas considérer, parce que le gène c'est très 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 important, mais ça ne suffit pas. Je veux dire, il y a des gènes qu'il faut qu'ils soient aussi largement
activés quelque part.
Oui, activé, et qui prend une qualification, donc une question de civilisation. Il faut une logique de police, pas de police, de la police, de polis,
la cité.
Il faut une logique de liberté, de la liberté de la personne et aussi des communautés. Il faut certains trucs certains principes de virtus.
Justement, j'allais y venir dans mes questions, Gabriele. Bon, les lecteurs qui te connaissent et ceux qui vont te découvrir, je l'espère, pourront remarquer que justement dans ce travail sur soi, dans ce modèle anthropologique que nous voulons en tout cas réactiver pour une minorité en tout cas active, une minorité avant-gardiste, ben tu fais des références à des modèles archétypaux, des modèles mythiques qui nous renvoient en priorité dans un univers qui est le tien, qui t'a beaucoup marqué dans tes études, l'univers gréco-romain, l'univers classique, avec à travers des figures. Tu as des figures de la mythologie classique. Tu as un chapitre, par exemple, qui s'intitule Hermès ou Mercure. Donc ça aussi, c'est que, quand même une petite marque fabrique où on sent aussi ce que nous pouvons tirer de plus positif des travaux et des écrits de Julius Evola. Pourrais-tu revenir un petit peu justement sur. Tu emploies un vocabulaire qui parfois fait référence à une voix solaire olympienne, donc vocabulaire familier pour les lecteurs d'Evola ou d'autres auteurs.
Là aussi, je préfère être assez clair. Je ne fais pas une bataille d'étiquette. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire ce mieux le paganisme, ce mieux le Rome, ce mieux le Botan, dont je parle aussi. Plutôt, je ne sais pas quel est le catholicisme, plutôt qu'autre chose. Pas du tout, parce que la question n'est pas là. La question n'est pas quelle voie tu choisis, mais comment tu marches dans cette voie, qui est fondamentalement différent. Alors, on sait très bien, enfin on ne sait pas très bien, mais disons que tout ce qui est dans la mythologie gréco-romaine, mais aussi ce qui est dans la mythologie germaine,
germano-scandinave.
C'est germano-scandinave, c'est en partie, c'est pas que ça, mais c'est en partie symbolique, mais pas symbolique dans le sens abstrait du terme, symbolique dans le sens qui montre de nature et de voix. Alors, si on assume la nature et la voix qu'on peut apporter, les choses vont tout à fait de leur sens. Je m'explique. Par exemple, là, je parle du féminisme. Et je dis une phrase que je dis souvent, je suis trop machiste pour ne pas être féministe. Et donc, j'explique que le vrai problème, c'est que le féminisme actuel a choisi comme point de repère les Amazones, et ça va encore, et au contraire, Hera, qui est la grande casse-couille de l'histoire.
Alors qu'il y a
aussi Artemis, alors qu'il y a aussi Aphrodite, Athéna, donc ça dépend de quel on peut choisir. Et quand je parle d'Hermès, je parle de la possibilité de bouger, de connecter par des actions, par des images. Par des contacts, parce que Hermès, c'est quand même le messager de Dieu. Alors, quelque part, par mon historique, j'assume en partie le rôle d'Hermès. Et là, comme vous voyez, comme les choses se font tout seules sans qu'on le sache, quand ma mère s'est mariée, au premier anniversaire de mon père marié, ma mère lui avait acheté une médaille en or avec un sang qu'il a toujours eu à son cou, et quand il est mort je l'ai pris et je l'ai toujours sur mon cou, et ce sang c'est Saint-Christophe, le sang des voyageurs, donc c'est aussi Hermès. Voilà, et donc c'est pour dire que il y a des subtilités qui lient le monde, qui font bouger le monde. Alors il faut essayer de le respirer plutôt que le comprendre. Ce n'est pas un problème d'intellectualiser les choses. Il faut respirer, il faut les entendre d'un point de vue sensuel. Après, les gens qui peuvent donner des directions devraient quand même essayer d'être un peu plus concrets et un peu plus terre à terre, un peu plus en même temps dans cette ligne. Alors qu'on vit de tous les défauts des différents pays. En France, le discours est trop intellectuel. En Italie, le discours est trop opportun, immédiat. En Espagne, il est trop, brutal. Et donc, nous avons ces limites. Mais je pense que on peut les dépasser, parce que si on les dépasse, il y a vraiment nécessité d'une avant-garde qui peut se marier avec ce mouvement général qui, pour l'instant, est complètement noyauté par tous les côtés par des gens qui ont commencé à travailler là-dessus depuis 40 ans, parce qu'ils l'ont vu venir. Moi, je l'avais vu venir avec le centre d'études. On avait parlé de ce changement sociologique qui se serait vérifié. J'en ai parlé il y a 40 ans. Mais ils ne sont pas les grands génies. Je veux dire, ils ont aussi, eux, des grands centres d'études en Israël, aux États-Unis, en Russie, en Chine, etc. Et eux aussi le savent. Donc, tout ça est largement noyauté.
Oui. Alors, tu t'exprimes très librement, de manière que je trouve très équilibrée, justement, en évitant certaines crispations, certains propos péremptoires sur des sujets qui intéressent nos auditeurs, des sujets de société. Un sujet qui est d'une actualité brûlante, parce qu'au moment où nous enregistrons, il y a eu en Italie une manifestation contre la remigration, et d'ailleurs ce terme devient en quelque sorte une sorte d'idée neuve en Europe. Là, je paraphrase un petit peu Marx, même si c'est pas si neuf que ça, mais effectivement, à travers de multiples initiatives à tous les échelons, cette idée commence à faire floresse, et de plus en plus même dans le champ politicien, immédiat. Donc tu consacres un chapitre justement sur l'immigration et l'immigré. Pourrais-tu un petit peu nous exposer ton approche justement de ce phénomène, qui est quand même un phénomène qui aujourd'hui révèle des enjeux vitaux pour nos peuples?
Alors il faut que je divise enfin, si tu veux, la réponse en deux, parce que la question du livre et la question de la manif,
ouais,
sont participé, mais ce sont deux choses différentes. Alors dans le livre j'explique comment l'idée de la migration en soi, elle est Neutre, elle est impossible, impossible. Parce que la manière, elle choque, elle se heurte avec beaucoup
trop, heurte
avec beaucoup trop d'éléments qui l'empêchent complètement. Ceci étant dit, je dis au même temps que c'est important quand même, parce que ça peut faire bouger les choses, parce que comme je l'explique aussi dans un autre article, pardon, dans notre chapitre, en Europe, il y a, alors que la politique est toujours toujours en arrière par rapport, par exemple, à l'industrie, à l'économie en Europe, etc. Donc, en Europe, ça, les choses sont en train de changer, et aussi dans le sens de la, au moins de la ligne générale sur l'immigration. Et ça, c'est aussi une grande partie le mérite de Giorgia Meloni. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est important que certaines choses se vérifient, c'est-à-dire que c'est important qu'il y ait participation massive dans ce sens-là pour pouvoir permettre qu'il y a de possibilités jouant au domino pour pouvoir quand même essayer de changer un petit peu la donne. Mais il y a deux grands problèmes là-dessus, énormes. Le premier problème, c'est que justement les gens sont pressés, mais ils ne se rendent pas compte parce que ce qu'ils veulent, ça ne servira pas, et que ce qu'ils voudraient que se fasse, qui est possible à se faire, peut être fait, mais il faut des années continuellement.
Bon, ceci dit, il y a plusieurs auteurs. Bon, j'ai reçu Jean-Yves Le Gallou récemment dans cette émission. Il y a eu la présence aussi d'un des promoteurs principaux de cette idée de remigration en Europe, Martin Zellner, donc l'Autrichien, qui s'est aussi exprimé à l'occasion d'un sommet récent à Porto, qui s'est tenu il y a quelques semaines. Bon, il y a quand même une... On procède par étapes. Il y a une volonté ce processus plausible et possible, en allant par étapes, en n'ayant pas une vision maximaliste et immédiate.
Mais il y a deux problèmes importants derrière. Il faut sinon on rêve. Le premier problème important, c'est que les gens, quand tu les excites, ils veulent un résultat immédiat.
Oui, ça c'est une
tendance. Oui, moi je n'ai pas dit que ce n'est pas humain. Je veux dire que c'est un problème à gérer. Le deuxième, c'est qu'il faut se demander qui gère le projet. Parce qu'en Italie, je sais très bien qui gère les projets, ce sont des gens indépendants et complètement purs. Ailleurs, dans certains pays, ce n'est pas du tout le cas. Alors, si...
Tu penserais à des ingérences, par exemple, américaines, voire russes.
Oui,
les deux, ou israéliennes.
Alors, la question, c'est que si on joue là-dessus la stratégie de l'attention, le seul résultat, c'est l'inverse. Donc, il faut quand même pouvoir travailler avec beaucoup de mesures, et surtout en pouvant tenir la gestion. Parce que si on se confie à la gestion de quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre peut faire vraiment n'importe quoi. Donc ça, c'est une bataille importante, mais à faire avec beaucoup d'intelligence. Cela dit, la solution, comme je l'explique, est envisageable, mais envisageable en deux générations. Mmh. Pas dans deux générations, en deux générations.
Mais en fait, à la base, c'est une idée qui doit faire son chemin.
Et je l'explique.
Dans la majorité des esprits.
Et je l'explique. Alors, il faut, comme nous sommes, surtout en Italie, complètement à terre à niveau démographique.
Donc tu insistes, tu reviens là-dessus.
On n'est même pas en mesure d'avoir des travailleurs, non, disons, sans parler de l'armée. Alors, la chose, à part la natalité, c'est une chose que je ne sais pas si ça peut... Normalement, ce sont les pauvres qui font les enfants, donc peut-être qu'on va recommencer parce qu'on va nous appauvrir, mais sinon, je ne sais pas. Mais il y a d'autres solutions aussi avec... Par exemple, la robotisation, à niveau militaire, à niveau industriel. Donc, très important de travailler là-dessus. Et encore, la possibilité de faire l'inverse. On a fait venir les travailleurs ici. On peut mettre, au contraire, avec nos cadres, on peut mettre les industries là-bas. Donc, ils travailleront là-bas. toujours pour la même chose. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Je vois dans certaines...
Donc, une délocalisation positive.
Pour créer aussi pour récoloniser de façon, comme on dirait aujourd'hui.
Oula, le vilain mot.
Pour faire une récolonisation, comment dirais-je, le mot c'est.
Mais qui soit bénéfique pour toutes les parties, on va dire.
Qui est bénéfique parce que bon.
Alors,
avec mon centre d'études aussi, nous avons une structure qui travaille beaucoup en Afrique. Et les Africains nous demandent de revenir. Donc attention, hein, parce que c'est tout.
Non, bon, on le voit dans plusieurs pays, au Zimbabwe, en Zambie.
Par exemple, je vois que dans la mesure du possible, parce qu'il ne faut pas oublier non plus, parce qu'il y a encore une autre histoire, que dans ce millier, tout le monde pense, je ne sais plus quoi, que quelqu'un gagne les élections et devient plus important que le roi soleil, alors qu'il y a de mesures de liberté qui sont des manœuvres qui sont très, très, très minces. Je vois que ce qui est en train de faire la Mélanie au niveau de rapports internationaux avec l'Afrique, avec une partie de l'Eurasie, avec le Japon et sur tout ceci, ça va dans la très bonne direction. Et là aussi, réussit à se faire à soutenir par la Commission européenne sur une réduction quand même de l'immigration, etc. Il y a aussi une chose importante, parce qu'on parle pas on parle toujours de la politique, mais la politique ne sert absolument à rien s'il y a des gens qui ont un pouvoir qui l'empêchent. Donc on a vu par exemple que le bras de fer qui continue sur le ressort en Albanie entre le gouvernement et la magistrature italienne, oui. Maintenant la Bruxelles la loi de l'Union européenne a donné raison à la Meloni. Et malgré ça, le juge en dit que c'est contre le droit de l'homme, donc que c'est pas imponible, donc il la refuse quand même. Donc nous avons affaire avec de pouvoirs qui sont occupés depuis longtemps et qu'il faut longtemps pour qu'ils soient
Oui, mais nous connaissons le même problème. Même si au niveau européen,
Mais si on ne comprend pas ça, je ne parle pas du petit peuple. Mais si les gens qui prétendent faire de la politique ne comprennent pas que tout est un système est articulé et que il faut travailler dans le sens du système articulé et qu'il ne suffit pas de crier plus fort ou de dire les choses les plus belles du monde pour pouvoir faire une proposition de loi magnifique sans savoir si elle est applicable et que de toute façon, en sachant qu'elle ne sera pas appliquée, il continue de jouer de faire du mal plutôt que du bien.
Oui, exactement. Alors, justement, tu parlais de la Mélanie, on peut justement aborder aussi la question de sa politique générale, du bilan qu'on peut tirer. Ça provoque beaucoup d'interrogations chez nombre de nos auditeurs, qui voient d'ailleurs souvent la chose de manière assez négative. Il y a des déceptions qui se font jour dans des publications, dans des déclarations sur justement le bilan aujourd'hui, notamment migratoire, mais pas que, de Giorgia Meloni.
Alors.
Qu'est-ce que tu pourrais leur dire
Simplement qu'ils sont cons. Ils sont cons. Et je m'explique pourquoi ils sont cons. D'abord parce qu'ils écoutent toujours ce qu'il dit le Parti communiste ou la gauche. Parce que c'est toutes les choses qui sont reportées par la gauche. Toujours.
En Italie
Ça, c'est repris par là. Parce que, et parfois, c'est par les gens qui sont anciens de l'extrême droite qui sont jaloux. Donc, ils sont rancuniers contre quelqu'un qui a réussi. Alors, je veux dire une chose, je ne suis pas, faut pas me prendre non plus pour un partisan de la Mélanie, ou je ne suis pas Fratelli d'Italia ni quoi que ce soit, mais je veux dire que c'est les premiers et seuls gouvernements en tout l'Occident, depuis 1945, qui condamnent l'antifascisme, officiellement.
Mais après, bon, certains diront, elle est tenue par les décisions européennes. Bon,
heureusement.
Elle est en bon terme avec Ursula von der Leyen, bon, qui est là aussi, qui fait partie de ces boucs émissaires qui sont diabolisés et hystérisés, d'une certaine manière. Bon, en tout cas, le voit pas.
Oui, mais je ne fais pas la psychanalyse, moi.
Ouais, voilà. Donc, c'est la manière. Donc, bon, pour toi, donc, effectivement, bon, y a des choses positives qui ont été faites et on n'a pas à être aussi pessimiste concernant justement bon, les aspects migratoires, les régularisations de travailleurs. Bon, souvent, on agite des chiffres, voilà, mirobolants sur le fait que voilà, Mélanie ne serait pas arrivée aux objectifs qu'elle aurait affichés à ses électeurs.
C'est absolument faux, parce que alors ce qu'on a impute à la Meloni, c'est de ne pas avoir atteint de les objectifs que quelqu'un a, lui-même avait dans sa propre tête. Mmh. Mais je n'ai jamais été les objectifs de Giorgia Meloni. Et l'électorat n'est pas du tout mécontent. Alors, il y a possibilité, bien sûr, qu'avec toute la nouvelle vague, surtout de massacres, etc., et la polarisation...
Quand tu dis massacre, tu dis, bon, les...
En Europe, voilà, les djihadistes.
Les meurtres,
par les meurtres de rue, etc., c'est possible que qu'à sa droite, il y aura une demande plus forte d'intervention, alors que ce n'est pas à elle d'intervenir, c'est beaucoup plus important, le problème c'est beaucoup plus large. Si les choses se marchent d'une certaine manière, tant mieux qu'il y ait aussi une polarisation à sa droite si elle est coopérationnelle. Si au contraire elle travaille pour Soros, ça on ne le sait pas, parce que souvent le double extrémisme utilise l'extrémisme. Non radicalise pour faire ce que disait Lénine, l'extrémiste était l'imbécile, pour faire de cette imbécilité l'impossibilité de travailler de certaines choses. Je fais un exemple. Je fais un exemple historique. Bush senior a eu un gros problème. Enfin, Israël a eu de très gros problèmes avec Bush senior et qui lui avait bloqué et les
livraisons d'armes, non ?
Non, il avait bloqué. Oui, non seulement il avait bloqué le prêt, mais il avait interdit. Il avait plus à donner les données satellitaires.
Ah, d'accord, oui.
Donc, après, ils se sont mis à faire des satellites tout seuls. Donc, il y a eu même l'appel presque religieux, presque une fatwa contre lui. Et en fait, ça a été créé une opposition à sa droite, populiste, plus intéressante apparemment, celle de Perrot. Alors, celle de Perrot était probablement plus intéressante que celle de Bush, mais ce qui a gagné, c'est Clinton. Voilà.
Oui, j'espère. Alors, justement, tu parles d'apparition sur la droite, de polarisation sur la droite de Meloni. Un nouveau parti vient d'être créé par un ancien général de l'OTAN, hein, le futur national ou l'avenir national. Que pourrait nous dire de cette nouvelle formation qui apparaît? Moi, ce que je sais, c'est que ce général en particulier s'est caractérisé par des positions pro-russes, bon, qui ne sont pas une exception chez les mouvements nationalistes ou nationaux populistes en Europe, que ce soit l'AFD ou en grande partie le Rassemblement National. Donc, comment s'appelle ce général
Il s'appelle Vannacci. Il faut voir. Qu'est-ce qu'il faut voir. Déjà, c'est un général de l'OTAN. Alors, moi, j'ai tendance à me méfier pour les gens de l'OTAN.
Tu connais des gens qui ont rallié ce nouveau parti
Que je connaisse personnellement, oui, par exemple, Borghezio.
Ah, Borghezio ouais. Ah, d'accord, oui. Okay. Qui était, bon, voilà, que je rappelle pour nos auditeurs, qui était membre de la Ligue. Hein,
qui était, pour l'instant, tous ceux qui ont rallié, ce sont ceux qui ont été plus ou moins évincés de leur parti. Mais ce n'est pas la question. Je veux dire que s'il arrive à être allié du gouvernement, il va probablement faire un grand score. Et qui va perdre, ce sera la Ligue.
Si par... Oui, justement, je vais te demander, Salvini, comment il perçoit
Mal. Si, par contre, il ne va pas être allié du gouvernement, il ne fera pas un score énorme, mais il sera en mesure de faire réélire le Conte et les gens
Oui, voilà, donc il risque de prendre des voix à Meloni.
Pas nécessairement à Meloni, mais à ses alliés. Donc, voilà. Après, ça peut avoir un rôle. On verra, on ne sait pas. Ça peut être un peu tôt pour le dire. Il joue beaucoup à se faire rejeter. Hein. Il essaye presque de se rendre impopulaire. Peut-être parce qu'il considère que si le Meloni tombe. Il faut dire une chose, que les politiciens rarement ont à cœur leur nation. Ils ont toujours à cœur leur personne. Donc, ils considèrent probablement que si le Meloni tombe et que s'il arrive la gauche au gouvernement, lui va être projeté dans le futur comme le personnage antagoniste, etc. Donc, pour sa propre carrière, ça serait plus intéressant qu'il gagne à gauche. Alors, j'espère qu'il préfère la nation à la carrière, mais normalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui font comme ça.
Oui, malheureusement. Alors, justement, dans les premières critiques de ton ouvrage, je pense notamment à un article qui a été publié sur le site de la Fondation Polémia, en fin de compte, beaucoup de tes idées, on va y venir, tu vas les développer là, dans cette deuxième partie d'émission, montrent en fin de compte une rupture avec de nombreux dogmes qui sont partagés par, on va dire, la droite nationale ou identitaire, pour faire simple, que ce soit chez nous ou sur une bonne partie du continent européen. Alors, plusieurs chapitres reviennent justement sur ces questions, et notamment une réserve profonde que tu éprouves pour une tendance que notre ami Adriano Cianca a qualifiée de géopolitisme, et aussi la question qui est une sorte de mantra et qui agite une partie des droites radicales ou dites prétendues nationalistes révolutionnaires, la fameuse question de la multipolarité. Pourrais-tu un petit peu revenir sur ces deux questions, sur ces deux termes, hein, étant donné que, bon, aujourd'hui, on voit que, notamment, la géopolitique fait floresse sur la grande toile, sur les réseaux sociaux, beaucoup de géopoliticiens en herbe, donc, en tout cas, se considèrent comme tels ou se proclament comme tels. Et c'est une sorte de marotte, voilà, qui devient presque quelque chose d'incontournable dans l'analyse du monde complexe dans lequel nous vivons.
Oui, je dis qu'on utilise toujours le mot géopolitique, comme Janko en parlant de Hemingway dans le livre Les oreilles et la queue. Il parlait du ketchup. Il disait, parlant de Hemingway, il dit, je le vois mettre le ketchup partout. Comme font les Américains pour qui mettent le ketchup partout pour donner à chaque chose le goût de chaque chose. Alors, un petit peu, le mot géopolitique, c'est devenu ça. Je vois que normalement, c'est utilisé pour justifier les ambitions maladroites de la Russie sur le continent européen. Et en disant que c'est la géopolitique russe et en mettant contre la logique de la s'appelle le nomos de la terre contre le nomos de l'air.
La fameuse opposition terre-mer qui parfois est fétichisée dans nos rangs. Hein.
Oui, tout à fait.
Là, d'Alexandre Dugin à Alain Benoît, par exemple, on voit cette fétichisation de ce couple, en quelque sorte, de cette opposition qui serait essentielle.
Tout à fait. Alors, je fais plusieurs remarques. La première remarque, c'est que même Schmitt ne fait pas tellement n'est pas si bêtement dualiste. Car en plus, même Haushofer, il considère que les grands alliés de l'Allemagne, ce seraient le Japon et l'Angleterre. Donc, c'est pas cette idée complète de la terre contre la mer est un peu erronée. Et encore que, par exemple, que Rome et Carthage, on peut considérer la terre et la mer, mais jusqu'à un certain point, parce que Rome est la première puissance d'économie globale, quelque part, et qu'elle gagne contre Carthage sur la mer. Et ce n'est pas.
Oui, exactement. Voilà.
Et c'est même Hannibal qui le dit. Et encore que même Sparte et Athènes, c'est même ça, mais finalement...
Sparte qui a rencontré une victoire à Hippopotamos, une victoire navale.
Donc cette histoire est un peu trop bête. Et en plus, si la géopolitique...
C'est réducteur en tout cas. Voilà,
Si la géopolitique explique obligatoirement la politique d'un pays, à quoi ça vaut d'avoir un idéal ou qu'est-ce que ça nous change si c'est, par exemple, De Gaulle, Macron, Pétain ou Mélenchon. Tout est pareil. Non, c'est pas possible. Et encore, finalement, si l'on doit considérer la géopolitique comme question fondamentale, pourquoi s'y prendre sur la géopolitique russe et pas sur la géopolitique ukrainienne, pas sur la géopolitique turque, et pourquoi surtout pas sur la nôtre? Donc, je pense que c'est un leurre complet, cette histoire de la géopolitisation abstraite qui est devenue un mythe, mais dans des petits... Dans des petit groupe de personnes, parce que dans le monde, personne ne sait de quoi on parle.
Voilà. Alors justement, la question de l'unité-polarité qui est un petit peu connexe, hein, de cette manière. Toi, tu t'es souvent exprimé là-dessus. Tu as aussi mis en avant une autre notion, celle de multi-alignement, que l'on voit mise en œuvre notamment par le gouvernement indien. Pourquoi cette réserve sur ce terme de multipolarité ?
Parce que la multipolarité est impossible. Alors,
unipolarité aussi, hein, voilà.
Mais même l'unipolarité est impossible, voilà. Parce que l'unipolarité n'a jamais existé. Alors, la logique de contrôle...
Même après 91, avec
oui.
Le nouvel ordre mondial prétendu...
Mais c'était pas l'unipolarité non plus. Parce que, il l'explique carrément Brzezinski, donc la bipolarité... Alors, normalement, une sphère est faite par deux pôles. Et deux pôles donnent une stabilité. Donc, le bipolarisme donne une stabilité au détriment de tout le monde. Alors, il y avait un bipolarisme russo-américain. Maintenant, ce sont ceux qui nettoient les chaussures aux Américains. Donc, c'est même pas important. Je veux dire, il risque d'avoir un bipolarisme sino-américain, mais ce n'est pas certain. Pour l'instant...
Mais qui avait été d'ailleurs anticipé par Brzezinski, justement,
ouais,
de mourir.
Ouais, voilà, Brzezinski qui expliquait à l'époque, et ce que d'après moi les Américains continuent de faire, de dire qu'il faut essayer de mettre les uns contre les autres, tous les autres players, en faisant de manière qu'ils soient redevables toujours quelque part des Américains. Alors, le multi-alignement est autre chose, parce que comme tout est entrelié de façon énorme, même les Chinois, les Américains maintenant sont interdépendants, alors on voit qu'un peu partout, les différents joueurs se trouvent une fois liés avec un et ennemis avec l'autre. Par exemple, le Pakistan est intervenu, entre guillemets, en faveur de l'Iran, alors que ce n'est pas tout à fait ça, mais elle vient d'intervenir quelque part en faveur de l'Iran, alors qu'ils se sont tirés des missiles il y a un an.
C'est vrai, au Baloutchistan.
Oui, et les tensions ne sont pas résolues, comme la chose n'est pas résolue. Donc un peu tout le monde joue dans plusieurs jeux. Donc il y a un multi-alignement dans une situation dans laquelle il y a une hégémonie américaine qui essaie d'empêcher aux Chinois de les rejoindre ou les dépasser. Et pour l'instant, c'est encore intéressant. Le jour où les Chinois et les Américains se mettraient vraiment d'accord ensemble, ça serait compliqué. Et ce n'est pas impossible.
Alors, parmi les autres questions géopolitiques, justement, c'est le cas de dire, sur lesquelles tu reviens dans ton ouvrage, nous allons aborder la question qui reste aussi très clivante de la Russie, en particulier dans son conflit généralisé à l'Ukraine. Mais avant cela, un bobino pour notre radio.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Bien, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute du Libre Journal de Pascal Lassalle, qui a aujourd'hui le plaisir de recevoir à nouveau, donc à la fois un vieil ami et un habitué de ce studio, Gabriele Adinolfi, pour la parution de son dernier ouvrage aux éditions du Paillon, intitulé « La Révolution silencieuse ». Alors, comme je l'annonçais avant cette coupure, tu reviens également sur cette question qui reste très clivante dans notre mouvement, ça veut dire au sens très large, sur en fin de compte, l'appréciation que nous devons avoir de la Russie en général et de ses agissements. Donc, depuis quelques années vis-à-vis d'un pays européen comme l'Ukraine, mais de manière générale, si on revient un petit peu dans le passé, hein, dans les dernières décennies. Donc, tu consacres à la Russie un chapitre intitulé « Cette Russie qui n'a jamais existé », en revenant un petit peu sur, en faisant un petit peu un bilan des deux dernières décennies écoulées dans son rapport avec l'Europe. Pourrais-tu un petit peu revenir justement là-dessus et expliquer à nos auditeurs comment tu conçois aujourd'hui cet objet provoque en tout cas des adhésions parfois assez prononcées dans justement la configuration politique intérieure et extérieure qui est celle de nos pays.
Oui, alors ce sont deux choses complètement différentes. Alors ouais. Il y a la Russie telle que, la Russie qui pouvait être, la Russie qui
aurait pu être,
qui voilà. aurait pu être, la Russie telle qu'elle est. Et les pro-russes sont
voilà, qu'elle a toujours été, en fait.
Oui, la Russie a choisi de vouloir être de celle qui a toujours été. Donc, ouais. l'ennemi de l'Europe. Ça, c'est certain. Et la jalousie vis-à-vis de l'Europe. Et là, un très grand complexe d'infériorité, parce qu'elle est inférieure, c'est pas une question de complexe. Et alors, elle joue avec un revanchisme, comment dirais-je, de violence, comme toutes les révoltes des araignées, etc. Et la Russie aurait pu être quelque chose. Il y a eu un moment que ça durait. Il y a même eu un gouvernement en Russie entre 2001 et 2006, parce que oui, on parle toujours de Poutine, mais Poutine est le chef de chef, c'est-à-dire il est Provenzano, et le Messino Denaro est le chef de la mafia russe, mais c'est pas lui. Enfin, le gouvernement se succède aussi les lignes. Alors, entre 2001 et 2006, il y a eu un très bon gouvernement qui voulait l'alliance réelle avec l'Union européenne, créer deux espaces économiques différents et complémentaires, et essayer de nous libérer, de nous émanciper de l'importance américaine. Après,
c'était aussi à l'époque de la deuxième guerre contre l'Irak.
Oui, exact. Après, ça a été, le gouvernement a été renversé, est venu la ligne pro-chinoise que, comme par hasard, à sa tête de gens de la trilatérale russe. Bon, comme voilà.
Pour le premier, tu cites le nom de Igor Ivanov, oui. Et pour le deuxième, dont on peut lire aussi la prose régulièrement, quand il est traduit, de Sergei Karaganov.
Oui. Voilà. Après, il y a eu toute l'histoire de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, pas que de l'Ukraine. Alors, je sais que, comme il n'y a pas... je précise que j'étais, on peut lire même dans nos pensées corsaires, j'étais poutiniste. Parce que l'époque 2001-2006, je l'ai vu bien jusqu'à 2014.
Ah, tu voyais bien une synergie continentale.
Absolument. Donc je n'étais pas du tout prévenu contre les Russes, mais j'ai vu ce qu'ils ont commencé à faire. Et quand j'ai vu ce qu'ils ont commencé à faire, et quand j'ai vu comment les justifier, alors déjà avec un victimisme sans aucun sens, alors que c'était, ça me rappelle comme les gauches qui d'abord attaquent et puis disons m'a frappé. Et en même temps, en reprenant de plus en plus les vieux discours de soviétiques, même en relançant Staline, en relançant même la Tchéka, et qui sont arrivés à faire, qu'ils ont commencé pas en attaquant l'Ukraine, mais en attaquant le Sahel. En attaquant la France, ils ont essayé d'empêcher que l'uranium vienne en Europe, alors que eux, c'est eux qui donnent l'uranium au nucléaire américain et qu'ils ont commencé à
l'uranium du Niger, on fait allusion totalement.
Oui. Et les Russes donnent l'uranium aux Américains pour l'atomique. Et la grande partie des éléments de militaires de l'armement russe, la grande partie, je parle de 78% et de factures américaines. Les chips, les fiches avec qui ils font partir le missile, etc., sont californiens. Tout ça continue, les relations sont continuelles et tout est fait dans une logique de plus en plus anti-européenne. Ils ont au Mali, quand ils ont pris, quand il y a eu la révolution, ils ont fait sauter la loi qui avait été proposée par les Français qui empêchait le marché d'hommes. Donc ils ont recommencé le marché d'hommes vis-à-vis du Nord. Poutine même a revendiqué la chose et a même dit que l'Europe doit payer pour sa colonisation, qui doit devenir finalement une civilisation.
Oui, mais reprenant un discours de l'époque soviétique.
Finalement une civilisation, la seule civilisation est métissée. L'Europe doit devenir métissée le plus vite possible. C'est toujours Poutine, ce n'est pas quelqu'un d'autre, je pense. Et puis on arrive avec Lavrov qui accuse l'Europe de tout en partant dans les derniers 5 siècles et où il met aussi la croisade. Donc il est un petit peu pas très bon en histoire, mais c'est pas la question. Donc ça, c'est la Russie. Après, il y a les pro-russes. Les pro-russes, c'est autre chose.
Pour terminer sur la Russie, là, tu emploies un thème aussi, le terme de Asie européen, ou plutôt que de Eurasiatique, pour qualifier un petit peu l'identité russe, l'identité impériale, mais surtout qui montre que des schémas mentaux et politiques qui datent de la Horde d'or, hein, de cette occupation quand même, tataro-mongole, qui a duré plus de 2 siècles et demi, a profondément marqué donc la mentalité russe et dans son rapport, je dirais, à la fois au sein de la société, qui n'a pas connu donc des phénomènes comme la féodalité, où il y avait une dialectique équilibrée entre le pouvoir et les élites, hein, les élites aristocratiques. Pourquoi ce terme de Asie
Parce que si on regarde le
Asie européen.
Parce que Eurasie, ça veut dire c'est une Europe qui s'élance sur l'Asie, non?
Ouais.
Asie-Europe, c'est l'Asie qui s'élance sur l'Europe. On le voit carrément, même avec le changement.
Qui a continué à imprégner depuis des siècles un peuple initialement européen, en tout cas dans ses fondements profonds.
On va plus simple là-dessus. On peut voir le changement de population qui s'est vérifié en Ukraine, où il mène les Asiatiques à la place des Européennes.
Ah oui, ils mettent en place un grand remplacement dans les territoires occupés.
Sans compter qu'il suffit de regarder à Moscou, à l'ère de la prière musulmane, qu'est-ce qui se passe? Moscou, c'est la plus grande. Il y a la plus grande communauté musulmane dans un pays non islamique. Donc la Russie telle qu'il a décidé d'être, c'est la Russie de Staline, empire. Alors qu'elle aurait pu être tout à fait autre chose, et je voudrais bien qu'elle recommence à l'être, mais je le vois mal actuellement. Après, la Russie des pro-russes, mais ça, c'est tout à fait autre chose. C'est parce que il rêve, j'en sais plus quoi. Alors, il rêve quelqu'un qui a des bottes serrées, qui puisse arriver ici à expliquer de façon qu'ils seront plus cocu par leurs femmes, et donc ils ont besoin de quelqu'un qui prend leur place à niveau de virilité, ou alors parce qu'il y a aussi une espèce de maniérisme à la française, je veux dire, à l'époque pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une partie de collaborateurs qui allaient à l'ambassade allemande. Alors je pense qu'on va à l'ambassade russe en pensant que c'est la même chose, et chacun joue un petit peu sa comédie. Alors, mais ça, ce qui s'attend la droite terminale par les Russes, c'est dans sa tête, c'est autre chose. Moi, je n'ai rien contre, j'ai tout contre la Russie. Je suis tout contre cette attente, cette histoire, mais je n'ai rien contre les petits rêves de chacun. Si chacun aime bien rêver pour des gens qui dénazifient et qui sont contents que les peuples européens soient écrasés parce que ils voient que, par exemple, Bernard Lévy est d'un côté, mais on voit que Netanyahu, par exemple, est de l'autre.
Bon, voilà, ils réduisent la validité d'une cause à certains de leurs soutiens.
Alors que
nous avons nos raisons de soutenir.
Mais encore une fois, je ne suis pas les psychanalystes, ça c'est leur problème.
Oui, en plus, après, comme tu dis, il y a les pro-russes qui fantasment plus ou moins gratuitement, entre guillemets, c'est-à-dire par les effets ou les conséquences de leur prise de position sur la grande tour des réseaux sociaux. Et puis il y a ceux qui, de facto, sont des agents d'influence, stipendiés ou non, et qui sont des petits soldats de la guerre communicationnelle,
bien sûr.
Qui est quand même menée contre l'Europe, contre une puissance qui se déclare hostile à l'Europe de différentes manières, que ce soit dans ces médias ou que ce soit par ces déclarations, comme tu l'as rappelé. Dans tes propos également, enfin en tout cas dans tes prises de position concernant certains sujets aussi sensibles, contre lesquels parfois on s'exprime de manière virulente et péremptoire dans notre mouvance, il y a aussi la question bien sûr des États-Unis, sans piternel la question des États-Unis, la question aussi de l'OTAN, de comment considérer aujourd'hui l'OTAN, qui a tendance aussi à être diabolisée, alors que pour revenir à la Russie, on a vu que le principal VRP de l'OTAN, c'est Vladimir Poutine lui-même, avec les effets de sa politique menée, de sa guerre généralisée contre l'Ukraine, avec l'adhésion de la Finlande et de la Suède en particulier, et puis redonner à cette alliance qui était donc en coma, qui était en situation de semi-coma, pour reprendre plus ou moins les paroles du président de la République française. Donc, comment appréhender aujourd'hui, une situation, une alliance qui existe aujourd'hui entre des puissances européennes et qui est peut-être en voie de mutation avec justement le nouveau cap initié par l'administration Trump.
Oui, alors déjà, on revient toujours à la même question de la fossilisation mentale et du malentendu dogmatisé. J'ai toujours été contre l'OTAN à partir de 1971. Et beaucoup de gens qui aujourd'hui sont contre l'OTAN étaient à Gladio ou soutenaient les Américains.
Dans les réseaux clandestins. Okay.
Donc, partons de là, parce que je ne suis pas en train de faire un discours pro-OTAN alors que ça se préparait beaucoup au binaire imbécile. La question, c'est que déjà, il y a plusieurs questions. Premièrement, on pense que les Américains nous tiennent par l'OTAN, ce qui est totalement faux. Les Américains nous tiennent par beaucoup de choses. Ils nous tiennent par la finance, par la communication, par la psychologie, par la culture, etc. La deuxième chose, c'est que, par exemple, quand on dit l'Italie est pleine de bases OTAN, etc., il faut savoir, les gens ne le savent pas, mais il faut savoir que l'Italie a signé un accord de capitulation pour lequel elle dépend stratégiquement des Américains et n'a aucun droit. Figurez-vous que Truman ne voulait pas que les Italiens rentrent dans l'OTAN, ce qui n'empêchait pas la présence de bases américaines. Donc, ça n'a rien à voir avec l'OTAN. Considérez, par exemple, qu'en France, il n'y a pas de base OTAN actuellement et qu'en Turquie, il y en a une. Donc, ce n'est même pas ça. Et personne ne se posait la question de pourquoi ils ont mis autant de bases américaines en Italie à l'époque. Ce n'est pas pour mater les peuples italiens qui n'ont jamais eu un sentiment anti-américain. Hélas, c'était simple, ni pour empêcher aux Russes qui n'étaient pas là, ni pour empêcher aux Arabes, ni pour empêcher aux Arabes qui étaient plus Américains, etc. Ils ont mis là les bases, ils ont mis plein de bases pour démontrer aux Français et aux Anglais que maintenant, nous, les Américains, nous sommes le maître de la Méditerranée. Donc c'était un truc anti-anglo-français. Alors déjà, on ne comprend pas ça. Deuxième chose, l'OTAN a été indispensable, évidemment, en 1949, parce qu'on oublie, alors indispensable, la demande de l'OTAN par rapport de pays européens qui étaient affaiblis, étaient désarmés, parce qu'on oublie que les Russes étaient à Vienne, étaient à Trieste, qui avaient lancé la guerre civile en Grèce et qui étaient en train de préparer la guerre en Corée. Mais le problème, c'est que bientôt, bien vite, on s'en aperçu à partir de 1956 que les Américains et les Russes étaient encore une fois de mèche.
Mais l'affaire de Suez.
Oui,
voilà,
était encore une fois de mèche, et que l'OTAN, le pacte de Varsovie, servait plutôt aux uns aux autres pour mettre ses alliés sur leurs bottes. Voilà. L'idée que l'OTAN est née pour faire la guerre à la Russie, que l'OTAN menace la Russie et que l'OTAN explique l'impérialisme américain est complètement bête. Si l'OTAN était née pour faire la guerre à la Russie, elle l'aurait faite. Et en plus, au moins, on aurait eu une bonne raison pour rester dans l'OTAN. C'est complètement faux. Alors, après, maintenant, il y a des histoires qui concernent la réalité actuelle. Et donc, il faudrait bien étudier quels sont les différents courants atlantistes aujourd'hui en Europe, en Allemagne, en Italie, en France, etc. Discuter là-dessus si on veut discuter. Mais bon, quand on parle souvent de l'OTAN, comme on parle d'autre chose, on utilise des fétiches. Et qui me permettent de rien dire. Donc, je suis contre l'OTAN. Si tu es contre l'OTAN, pourquoi tu as fait de manière que la Suède et la Finlande y adhèrent?
Est-ce que pour toi, bon, l'OTAN qui a le mérite d'exister en tant qu'alliance intégrée, alliance structurée, par des décennies de mise en place, de pratiques d'entraînement, de standardisation des armements, etc. Est-ce que l'OTAN pourrait être, justement, avec l'évolution aujourd'hui des relations entre l'Europe et les États-Unis, une base pour constituer une entité européenne indépendante de défense?
Alors, c'est un grand débat. Si on élimine, les préjugés qui te portent à dire non, c'est difficile aussi de dire oui, parce que l'OTAN ne veut rien dire non plus. Oui. Parce que l'OTAN, c'est une alliance entre différents pays. Et ça dépend quelle est la prise qui, dans ces milieux, ont par exemple les Américains. Par exemple, en Italie, la prise des Américains est énorme, mais beaucoup plus importante dans les milieux OTAN. est beaucoup plus important que dans le pays qu'en Allemagne, parce qu'en Allemagne quand même il y a une double logique, je veux dire une logique nationale du fond. En Italie il y a tellement d'égoïsme individuel qui est beaucoup plus facile. Alors c'est pour ça que je disais aux parents, je me méfie de voir un général de l'OTAN comme représentant politique, parce que je ne sais pas où il va. Donc c'est difficile à dire. Ça dépend. Moi, ce que j'espère beaucoup, tout en étant quand même très favorable à la force militaire européenne, ce que j'espère beaucoup, c'est dans une espèce de un cadre angulaire entre l'Italie, l'Allemagne, la France et la Pologne pour aller beaucoup plus en avant avec des alliés non seulement dans le cadre de l'OTAN, mais avec d'autres alliés qui peuvent être de quelque manière le Japon et l'Inde pour changer complètement. Mais ça, c'est une hypothèse de travail.
Oui, ben c'est une idée déjà qui avait été agitée, hein, je me rappelle, par Henri de Grosseau, je crois, le fils de François. À l'époque, il était question de créer une avant-garde. Ben, c'était à l'époque des illusions sur un axe Paris-Berlin-Moscou, hein, après la deuxième guerre d'Irak. Ben, l'idée d'une avant-garde européenne, hein, qui lance un mouvement au sein même de l'Union européenne pour justement constituer ce serpent de mer que beaucoup dénoncent, c'est celui d'une armée européenne. Ce qui nous fait venir justement un dernier point, en tout cas qui concerne la politique internationale, et qui pourra surprendre les auditeurs qui ne connaissent pas tes prises de position, bon, celles qui sont les tiennes depuis déjà des décennies, c'est l'idée que l'Union européenne, bon, qui est aussi, bon, qui n'est pas forcément très populaire, c'est le moins que dire, c'est un euphémisme de le rappeler, serait un outil à transformer et non pas à détruire. Et donc, pour toi, des volontés de Frexit ou d'Italexit ou d'autres pays, bon, relèveraient totalement d'un écueil qu'il faudrait éviter. Quoi.
Non, mais ça c'est le Frexit et tout le reste, ce sont de... Les Anglais ont arrêté maintenant parce qu'ils ont vu le résultat. Ce sont simplement des impulsions américaines et russes. Ça n'a aucun sens. Déjà, l'Union européenne, de toute façon, ne peut pas être démantelée. Elle peut avoir beaucoup de coûts, recevoir beaucoup de coûts, mais c'est historiquement, économiquement impossible de le démanteler.
Alors, la question... Mais ce n'est pas souhaitable aussi. Manière. On ne peut pas recréer... Enfin, toi, bon, nous sommes d'ailleurs tous les deux, et nous ne sommes pas seuls, bon, partisans d'une synergie continentale européenne qui est de nature vitaliste, en fait, étant donné qu'aujourd'hui, à l'ère des grands espaces autocentrés, des grands empires de retour, bon, nous ne pouvons peser dans l'histoire et nous maintenir dans l'histoire à l'échelon continental, à l'échelon
continental. Mussolini l'avait compris en 1921, donc je veux dire, après, je veux dire, les droites terminales prennent toujours le discours des autres. Et la question est une autre fondamentale. Il ne faut pas confondre le modèle et la dynamique. Alors évidemment, le modèle européen actuel n'est pas un bon modèle, mais ce n'est pas parce qu'il est européen, c'est parce qu'il est mal fait et c'est une mauvaise représentation de tous les mauvais modèles.
Voilà. On a transféré les mauvais modèles nationaux à l'échelon européen.
Mais cela dit, comme tendance, comme dynamique historique, elle vient de loin. Et même la plus proche vient de 1940. Et c'était très bien écrit, il y a un ouvrage extraordinaire de, comment il s'appelle, d'Europa, par le professeur de la Sorbonne.
C'est pas Poussou,
non, je ne sais plus. Bon, enfin bon,
on reviendra
dessus. Et cela dit, donc, c'est un phénomène, c'est une dynamique qui a été quand même toujours contrée et pas soutenue par les Américains. Et c'est une dynamique qui est en soi très intéressante et très souhaitable. Après, le modèle est un demi-avortement. Je veux dire que c'est plutôt l'économie européenne qui arrive dans un système évidemment capitaliste, comme tous les systèmes sont capitalistes aujourd'hui, donc avec tous les défauts du système capitaliste. Mais le problème, c'est que et encore souvent dans ce milieu, quand on a quelque chose qui va bien, on l'accuse de tous ces défauts qu'il a, mais en oubliant que tout le reste a le même défaut sans avoir la qualité. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut changer, qu'on peut changer vraiment, mais la dynamique est très importante. Et surtout, le fait aujourd'hui que l'Europe reste la troisième puissance, peut-être même la deuxième puissance mondiale au niveau économique et commercial, et qu'elle est, comment dirais-je, prise à plusieurs feux dans cet multi-alignement, dans cette nouvelle course aux sources énergétiques, ça rend des potentialités énormes. Et par exemple, chose qui est très importante pour moi, il est revenu dans l'imaginaire le sens de la guerre.
Oui,
et ça, ce qui est fondamental, parce que la guerre existe depuis toujours, et on ne peut pas se passer de l'idée de la guerre. L'idée de la guerre, c'est une idée métaphysique qui est équivalente à l'idée de la vie. Comme on a caché la mort sous un tapis, on essaie de faire les essais rapidement, on ne veut pas en parler. Pareil, c'est pour la guerre. Et ceux qui n'ont pas la mentalité de la guerre, la mentalité de la guerre, qui ne veut pas dire faire la guerre, ce sont des peuples asservis. Donc le fait qu'on recommence à penser la guerre en Europe, c'est extraordinairement positif.
Complètement. Moi, c'est des choses aussi, c'est une position que je tiens depuis bien longtemps. On le voit en Ukraine. L'Ukraine est vraiment l'exemple de l'exaltation des vertus guerrières ancestrales de nos peuples, hein, d'une bonne partie de la population, en tout cas de ses meilleurs éléments, hein, contrairement à ce que certains vont propager en montrant des fois des phénomènes d'insoumission, etc. Mais on voit que globalement, on a un retour de la guerre dans notre espace mental. Alors que l'Union européenne, initialement, était basée sur un modèle économiste kantien, hein, de post-national, post-identitaire, comme une sorte de premier stade vers un État mondial. Donc là, effectivement, Nietzsche disait que l'Europe se fera au bord du tombeau. Bon, là, en fin de compte, on est un petit peu, je pense, dans cette perspective.
Oui, il faut aussi dire qu'il y a un chapitre, quand je parle de l'Union européenne, parmi les autres, qui s'appelle « Allons au-delà de l'Union européenne ». Donc, je ne suis pas en train de défendre le modèle de l'Union européenne. Je suis pour aller au-delà dans plusieurs manières.
On a bien compris que, de nombreuses positions qui sont les tiennes et qui sont aussi les miennes, hein, nous sommes en accord depuis très longtemps sur ces questions-là, ressortent d'une position de troisième voie. Plus que jamais de position tercériste. Et toi, tu prônes un souverainisme européen. Par-delà donc l'européisme bruxellois et les tentations souverainistes de retour à l'État-nation. Alors que aujourd'hui, le spectacle que nous offre la géopolitique mondiale montre que le stade de l'État-nation ne peut pas suffire à garantir une régénération de nos peuples et notre maintien dans l'histoire. Et c'est ça que beaucoup de nos amis et camarades souverainistes ont encore du mal à percevoir et à admettre, ça veut dire. Et c'est ça qui montre qu'il y a encore beaucoup d'écueils mentaux, comme tu dis, pour essayer d'aller de l'avant. Hein, à de très nombreuses reprises, mon précédent invité aussi, qui était là il y a quelques semaines, on avait pu aborder aussi ce sujet hors antenne. Et faire comprendre que l'échelon continental est une nécessité vitale. Pour pouvoir avoir une chance de nous pérenniser en tant que sujet et acteur de l'histoire.
Il faut préciser, parce que souvent, les gens ont peur de dire « je deviens souverainiste européen, donc je ne suis plus français, je ne suis plus italien, je suis plein de... »
Oui.
Et ce n'est pas du tout ça.
Alors justement, j'allais y venir, c'est ta conception de l'imperium, ce rattachement au modèle impérial et avec cette question de la subsidiarité qui l'implique forcément.
Oui, mais je préfère faire un exemple pratique.
Dis-nous.
En Italie, il y a eu, quand l'Italie a été unifiée,
Risorgimento,
il y avait quand même le royaume du Sud avec les Bourbons, etc.
Donc le royaume de Sicile.
Oui, le royaume de Sicile s'appelait. Et il y a eu quand même une forte résistance parmi des fidèles. Et en plus, il faut dire que il y a eu des moments historiques très intéressants, particuliers comme la siège de Gaeta. Il y a eu des gens qui sont morts dans camps de concentration non nourris par les Piémontais. Donc c'était un moment très tragique. Et il y a toute l'épopée de cette histoire qui a été écrit par un Italien, par un auteur italien qui s'appelle Alianello. Et aux années 20-30 du XXe siècle. Mais Alianello faisait partie du parti nationaliste italien et avait adhéré au fascisme. Donc, il a assumé même le passé contradictoire dans une synthèse. Et donc, il a repris même la logique néo-bourbonne dans une logique nationale italienne. Mmh. Et c'est ce que...
L'une ne contredisait pas l'autre.
Non, comme il y a eu pas mal de comment dirais-je, il y a eu parfois de choses pareilles entre la Vendée et Napoléon. Mmh. Alors, je ne suis pas. Ça, c'est pas tout à fait la même hypothèse, parce que l'Europe ne s'est fait pas contre la France, contre l'Italie ou contre l'Allemagne. Ça s'est fait comme l'Italie s'est fait entre Naples, Rome, Bergame, etc. Donc, toute identité reste très forte. Même en Italie, c'est très fort. Les identités locales sont très fortes et très contradictoires l'une avec l'autre, mais ça n'empêche qu'il y a une identité commune. Et alors, une identité commune qui est déjà européenne, parce que l'Europe vient bien avant, dans une certaine logique.
Non, il faut
savoir
que...
Parce qu'elle précède l'histoire.
En fait, il y a plusieurs niveaux d'identité, hein, ce que moi j'ai coutume de qualifier d'identité triscalaire à trois échelles. Une identité de ce qu'on appelle les patries charnelles, c'est peut-être les provinces, les régions, l'identité historique et nationale, et l'identité civilisationnelle, impériale. Donc ces trois identités ne s'excluent pas. Elles se complètent et chacune se décline selon le principe de solidarité où chacune développera les compétences qui sont celles du niveau où elle se situe. Et ça, souvent, on pense les choses en exclusivité, voilà, de manière exclusive, alors que là, et l'histoire nous le montre. Tu as un exemple, effectivement, moi, ce qui me frappe en Italie, qui m'a frappé depuis très longtemps en tant que Français, c'est cette permanence des identités locales. Des identités, que ce soit qui se déclinent au niveau dialectal, que ce soit au niveau architectural, des mémoires historiques locales, alors que la France a été arasée par un modèle uniformisateur et jacobin, qui d'abord a colonisé intérieurement donc des populations qui n'étaient pas initialement francophones, avant bien sûr après de se projeter à l'extérieur de l'Hexagone. Alors il nous reste une dizaine de minutes. Comment, en fin de compte, qualifierais-tu, quelques mots pour terminer avant que je fasse mes petites chroniques sur justement cette confrérie des Lansquenets d'Europe que tu as fondée il y a un peu plus d'une dizaine d'années, qui, je le rappelle une fois de plus, va tenir ses 11e assises, ses anciennes 11e rencontres dans une belle bâtisse provençale que beaucoup d'auditeurs connaissent ou ont entendu parler. Et comment présenterais-tu aujourd'hui le stade auquel est arrivée cette initiative que tu as laissé le temps de se développer, en fait, de compter, de prendre son envol?
En
quelques minutes.
Je vais essayer parce que c'est assez énigmatique. Donc,
ça l'a toujours été.
Oui, toujours été. J'ai parlé de la fonction mercuriale. Donc, ce qu'ils font, les Lansquenets d'Europe, c'est surtout de mettre ensemble de mettre ensemble de gens qui font partie de différents mouvements, de différents partis, de différentes sensibilités à niveau actif, et qui avec qui on relance un esprit particulier et pour lequel on revient aux fondamentaux. Et ce sont des moments où on se rencontre après pour rayonner après, parce que chacun après rapporte dans ses propres pays les mêmes façons de respirer, la même façon de raisonner. De là sont nées beaucoup de choses, sont nées des différents instituts métapolitiques en Europe, ils sont nés aussi de relations professionnelles parmi des gens. Ça réussit énormément à faire dépasser de clivages, d'antipathie entre différents mouvements à niveau national. Donc c'est un mouvement qui à la fois est coagulateur et qui va après rayonner dans certaines choses. Et ça fait partie d'un système de travail, d'une logique que j'appelle et que j'explique, que j'appelle dans le livre de la communauté des communautés. Bon, pour expliquer, ce sont évidemment, on parle tellement de langues que c'est compliqué, donc on arrive à être synthétique, mais surtout, ce sont surtout les mots, les passages, les gestes. On fait du tai chi, il y a des maîtres d'arts martiaux, on fait des tournois, on parle de certains sujets. Cette année-là, pour la première fois, on aura de la fauconnerie.
D'accord, oui. Donc c'est une forme, en fin de compte, de militer ensemble dans des moments choisis, dans des moments forts. Entre personnes qui ne sont pas forcément membres de toutes les mêmes structures, même des fois des structures qui sont parfois, je ne dirais pas opposées, mais parfois rivales ou en conflit. Mais il y a une volonté de dépasser cette appartenance pour créer cette appartenance commune, en fait, de décliner notre vision de l'impérium au niveau communautaire, au niveau convivial, et créer des liens indissolubles, surtout bon, axés vers une même perspective, dans une même direction, quoi. Et globalement, voilà, ce sont un petit peu les positions générales que nous avons déclinées aujourd'hui qui, en fin de compte, nous meuvent avec, bon, bien sûr, des ouvertures au maximum du pays européen. Même si la latinité italienne et espagnole reste encore bon, prédominante, il y a encore du travail à faire pour l'ouverture sur l'Europe centrale, l'Europe baltique, l'Europe orientale.
Alors, je me rends compte que quand cette émission sera écoutée, il manqueront 12 jours, donc peut-être que ce sera un peu trop tard, mais si quelqu'un veut être intéressé, comment lui donner un contact, parce que si je vais citer la...
Mais pourront laisser un contact sur le site de notre radio. Sur la page de notre Bien. Émission. Alors, il nous reste... sûrement, Claudia me dit qu'effectivement, le compte à rebours s'écoule inexorablement, ce qui me laisse juste le temps de rappeler une récente parution à laquelle, d'ailleurs, tu as modestement contribué, mon cher Gabriel. Il s'agit du volume 5 de la revue d'études doctrinales Sparta, qui est donc édité par les éditions Eidos, donc sous la direction de rédaction de Philippe Baillet. Donc c'est une revue qui commence à faire son petit chemin au sein d'une mouvance que j'espère de plus en plus élargie, par sa rigueur, par sa qualité doctrinale. Et ce dernier numéro qui vient de sortir donc, est consacré à quelque chose, à un sujet qui t'est plus que jamais cher, mon cher Gabriel, c'est le legs que Rome, que la romanité nous a laissé, donc avec un dossier intitulé « Le legs de Rome, virtus, fides, pietas », un édito intitulé « L'actualité de Rome, c'est son éternité », donc avec plusieurs textes, textes de Jules Evola, de Jean Baillet, de Nuccio Danna, de René Péchon, de Flavius Joseph, on va prendre quelques classiques, de Thierry Buron. La revue est également assortie d'articles divers sous la rubrique Mélange. Article d'Antoine Dresse alias Egonon, que j'ai toujours le plaisir de recevoir dans cette émission, sur l'œuvre de... ce que nous devons retenir de l'œuvre de Louis de Bonald, article de Jean Bataille sur les fonctions secrètes et l'utilisation de la monnaie métallique par les Spartiates, deux articles de Philippe Baillet sur le cosmisme grec et dans l'œuvre de Kostas Papayannou, et un entretien qu'il avait donné à un mensuel suisse, de nombreux comptes rendus. Donc c'est toujours une revue très stimulante pour l'esprit, pour l'âme et l'esprit, devrais-je dire. Donc la revue Sparta aux éditions Eidos, volume 5, que l'on peut se procurer notamment sur le site des éditions Acribeia ou dans les quelques rares bonnes librairies qui demeurent sur notre territoire, ou par correspondance notamment chez Europa Diffusion également, de notre ami qui a eu la bonne idée d'éditer ton dernier ouvrage, dont je rappelle donc les références, donc La Révolution Silencieuse aux éditions du Paillon, pour la modique somme de 20 euros. Voilà, un ouvrage à lire attentivement, à méditer et surtout à traduire en actes. Et puis, ces rencontres d'Élan Skenet et cette synergie qui est lancée au niveau européen, pour justement cohérer une avant-garde que nous appelons de nos voeux dans ces temps qui le nécessitent plus que jamais. Des projets d'écriture, Gabriel, il nous reste 2 minutes pour...
Je viens de faire...
Oui, monsieur, il est sorti l'année dernière.
Laissons le temps de compter. Là, il vient d'être traduit en espagnol. Bientôt, ce sera en portugais, mais on verra bien.
Oui, polonais, peut-être, non ? Il y avait les camarades polonais.
Ouais, qui...
Bon, en tout cas, voilà, on souhaite un joli succès à cet ouvrage et j'encourage en particulier les plus jeunes, justement, cette génération prometteuse dont tu nous as parlé tout à l'heure, à l'acquérir et à le faire leur. Voilà, la révolution scientifique, Gabriel Inolfi. Ben Gabriel, merci beaucoup.
Merci à vous.
D'avoir été présent. Tu me couvois maintenant.
Ben non, merci à
la
toi
radio,
et
à la radio. Voilà. Et à Claudia ici présente, Claudia aussi, notre charmante ingénieure. Et puis je donne rendez-vous à tous nos auditeurs pour de prochaines aventures métapolitiques au cœur de l'été. Au revoir.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de Pascal Lassalle, émission préenregistrée le 17 juin 2026, diffusée sur Radio Courtoisie samedi 11 juillet de midi à 13h30 et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs, aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.